VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 21 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo, les élèves catholiques pressent la classe politique de parvenir à un accord avant Noël.
Gambie, Yahya Jammeh dit attendre une décision de justice pour déterminer s'il quittera le pouvoir.
Cameroun, une pétition remise au président Biya s'oppose à un projet de plantation de palmiers à huile.
En Allemagne, après l'attentat du marché de Noël à Berlin, les enquêteurs recherchent un jeune homme d'origine tunisienne.
Et son identité a été dévoilée. L'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Bonsoir à tous. RDC, l'ultimatum des évêques catholiques à la classe politique pour parvenir à un accord avant Noël à l'occasion de la reprise des travaux. La Conférence épiscopale nationale du Congo appelle les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à parvenir à un accord avant le 25 décembre prochain, faute de quoi un plan B serait activé. Reportage de Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les évêques souhaitent la fin des discussions avant la fête de Noël. Ils sont également fermes si le plan A n'aboutit pas à un accord, un plan B sera exécuté. Abbé Donatien Chollet est secrétaire général adjoint de la CENCO.
Le simple accompagnateur là où le peuple souffre. Donc les choses prennent une dynamique nouvelle. Le message a été clair, elle tirera les conséquences qui vont s'imposer, vous le saurez.
Et le fait que la CENCO dise que avant Noël, si les travaux ne prennent pas fin, elle va tirer les conséquences, ce ne sont pas des menaces là ?
Vous saurez de quoi il est question si jamais on était dans cette question-là. Il y a un plan A, il y a un plan B.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Vous le saurez.
Du côté signataire de l'accord du 18 octobre, l'on s'entend maintenant à un consensus entre la classe politique. Jean-Lucien Boussa.
Les évêques sont d'abord des citoyens congolais. Ce qui se passe dans le pays ne leur est pas étranger. Mais aussi, s'il y a des conséquences négatives, tout le monde les subit de la même manière. Non, je crois que le débat n'est pas celui-là. La question aujourd'hui, est-ce que nous soyons déterminés à trouver une réponse qui s'inscrive dans une dynamique de solutions globales, mais qui s'inscrive aussi dans la durée.
Au rassemblement, la proposition que la CENCO va faire, s'il n'y a pas d'accord, sera examinée à leur niveau. Jean-Marc Kamboun, secrétaire général de l'UDPS.
Nous sommes venus ici pour trouver un accord politique qui va faire partir M. Kabila du pouvoir. Ça doit être bien fixé. Il va quitter. Donc, dans ces cas, moi, je pense qu'une solution que nous proposera la CENCO dans les 48 heures qui suivent, nous allons l'examiner et dès que nous trouverons les comptes du peuple congolais dedans, nous signerons l'accord, il n'y aura pas. C'est une solution qui sera, au fait, matérialisée par un accord qui, de bonne foi, sera signé. Si un accord ne se signe que de bonne foi, il s'applique de bonne foi.
La commission de 10 personnes qui est mise en place est composée de 5 signataires et 5 autres non-signataires de l'accord du 18 octobre dernier. Depuis Kinshasa, Gino Reima de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Notez par ailleurs que le prélat catholique exige une enquête indépendante sur les événements des 19 et 20 décembre dernier qui ont fait 19 morts selon les Nations Unies.
Après les manifestations d'hier, faisons le point à Kinshasa avec Charlie Kasereka.
Après une journée émaillée de violences à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC, ce mercredi, le calme semble revenu dans la capitale. Sur les grandes artères de la ville, la circulation a repris et les transports en commun étaient bien visibles. La majorité des magasins et banques ont ouvert et les petits marchés à l'intérieur des quartiers. Côté population qui est restée toute la journée du 20 décembre et terrée chez elle, c'est une réjouissance pour certains de reprendre leurs petites activités quotidiennes, suivant certaines réactions.
La vie n'est pas vraiment totalement comme d'habitude, les gens ont toujours peur. Les écoles, non. Le marché, oui, ça va un peu. Moi-même, je fais un petit tour ici au grand marché, comme il m'a appelé Zando. Je suis optimiste, vraiment, sur ce point-là.
Moi, j'ai fait le petit commerce ici devant ma maison. Et j'ai commencé déjà à avoir peur si les désordres continuaient, parce que je n'avais aucune provision dans ma maison et tout était bloqué. Et ce que je déplore est que notre pasteur a été atteint par une balle perdue et il en est décédé. Déclare cette dame rencontrée dans un quartier de Kinshasa. Côté politique, l'air est au bilan. Tout d'abord, à la police nationale congolaise, son porte-parole avance un bilan de 9 morts et plus de 200 personnes arrêtées. Par ailleurs, la mission onusienne en RDC, elle avance un bilan qui se situerait pour la seule journée du 20 décembre entre 19 et 26 morts. Charlie Kasereka depuis Kinshasa pour VOA Afrique.
Et à Lubumbashi, quelle est la situation? Narval Mabila a rencontré des louchois très remontés.
Crépitement des balles en rafale ont réveillé le Louchois ce mercredi matin. Les manifestants ne relâchent pas. Témoignage d'un habitant du quartier Gécamines qui s'exprime sous anonymat pour raison de sécurité.
On nous envoie les militaires et la police pour tirer sur nous en fait. Mais ça nous dépasse beaucoup plus, on ne comprend pas. Tandis que nous nous revendiquons nos droits. Nous venons de voir le gouvernement de Kazemba en train de venir. L'air marche et consort, ça ne nous concerne pas. Parce que ce que nous cherchons, c'est autre chose, c'est l'alternance.
Alors que le gouverneur Jean-Claude Kazembe conscientisait la population à la paix. Entre-temps, la population dénonce la tracasserie policière et militaire dans leur quartier.
Et nous regrettons. On pensait qu'on a mis les militaires devant nous pour nous sécuriser. Et ce sont ceux qui nous intimident maintenant et qui nous mettent dans une insécurité totale. Il y ravit les gens à leur bien. Bon, si quelqu'un passe, on l'interpelle, on le fouille dans ses poches, tout ce qu'il trouve et qu'il prend.
On a pris juste les bus de transport au centre-ville pour se rendre du côté péage Kisang. Arrivé au niveau des bifurcations, de Kipushi Kasumbalesa. Et il y a eu une troupe de militaires qui nous ont arrêtés avec les chauffeurs. On a ravi les bus et tous les garçons qui étaient dans les bus sous Kraka, on les a emportés en prison.
Polémique autour du bilan, alors que les autorités minimisent, les témoignages de la population seraient entre une vingtaine de morts et des blessés. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Restons en République démocratique du Congo, allons à Goma, où 20 militants de la Loucha ont été arrêtés aujourd'hui. Pour en savoir plus, Nanit Talani a joint depuis Goma Serge Ivia, membre de la Loucha.
Oui, c'était en marge de la campagne Bye Bye Kabila que nous avons commencé depuis un mois déjà. Nous avons organisé un sit-in au niveau du gouvernorat de province pour dire à M. Kabila qu'il n'est plus notre président et que nous n'allons pas accepter qu'il puisse diriger contre la Constitution. Et donc, nous étions en train de lancer ce message pour rappeler que ce mandat, son deuxième et dernier, a pris fin, et donc il doit quitter le pouvoir. Donc, c'était dans un sit-in. Après une vingtaine de minutes, la police a débarqué et les militants ont été dispersés et 20 ont été arrêtés aujourd'hui.
Et où ont-ils été conduits?
Au cachot des renseignements de la police.
Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Et là, nous ne savons absolument rien qui est reproché. Tout ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il suffit de manifester pour être arrêté. Même si les manifestations sont toujours pacifiques, comme la manifestation d'aujourd'hui, mais c'est là, en quelque sorte, aujourd'hui, une raison de répression, quoi.
Est-ce que vous croyez qu'ils pourraient être bientôt relâchés?
On ne croit pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés ces derniers jours. Tout ce que nous savons, c'est que nous, on ne va pas lâcher. Il y a beaucoup de militants encore à l'extérieur, et donc nous allons continuer la pression.
Le témoignage de Serge Ivia, il est membre de la Loucha.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président gambien Yahya Jammeh rejette les efforts visant à le convaincre d'abandonner le pouvoir en janvier prochain suite à sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow. Les précisions de Nani Talani.
Le refus de Yahya Jammeh de respecter les résultats de la présidentielle du 1er décembre est un défi à la CEDEAO et au reste de la communauté internationale. À l'occasion d'une rencontre avec des délégués de la Fédération des barreaux africains, le président gambien a réitéré hier soir sa volonté de rester aux commandes à Banjul jusqu'à ce que la justice se prononce sur son recours contre la victoire du candidat de l'opposition. Il y a 4 jours, les membres de la CEDEAO réunis au Nigeria en séance extraordinaire ont annoncé que l'organisation reconnaît M. Barrow comme le vainqueur de l'élection et ont promis de le protéger et d'assister à son investiture le mois prochain. Outre la CEDEAO, l'ONU et des puissances européennes comme la France exigent le départ de Jammeh. Mais ce dernier persiste et signe « Je ne serai intimidé par aucune puissance dans ce monde ». Je veux m'assurer que justice soit rendue. Par ailleurs, l'opposition gambienne a indiqué hier qu'elle privilégie une solution négociée à la crise actuelle, écartant toute menace de poursuite contre le président sortant. Des députés européens ont mis en cause la légitimité du président gabonais Ali Bongo Ondimba, invoquant les résultats officiels extrêmement douteux du scrutin présidentiel du 27 août dans un projet de résolution transmis aujourd'hui à l'AFP. Une résolution sur le Gabon devrait être représentée devant le Parlement européen lors de la prochaine session à Strasbourg, mi-janvier.
Les douanes du Nigeria ont saisi 102 sacs de 50 kg chacun de riz en plastique destinés à être vendus à l'approche des fêtes de fin d'année dans la capitale économique Lagos, a-t-on appris aujourd'hui auprès d'un haut responsable du service. Les sacs étaient étiquetés meilleur riz tomate, mais n'indiquaient ni origine ni date de conditionnement. Les douanes pensent que les sacs ont été introduits clandestinement dans le pays depuis la Chine via le port de Lagos, alors que le Nigeria a interdit la vente ou l'importation de ces riz.
Et ailleurs dans le monde, en Allemagne, l'enquête progresse dans l'attaque du marché de Noël à Berlin, la capitale. Le parquet antiterroriste allemand a identifié le suspect de l'attentat comme étant Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, et publié un avis de recherche assorti d'une récompense. En Tunisie, les parents du suspect ont été interrogés par la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Salwa Jafari.
On commence avec Coca-Cola. Le géant américain a annoncé le rachat de 54,5% de Coca-Cola Beverages Africa, qui assure la production et la distribution de 40% des volumes de la compagnie d'Atlanta en Afrique, pour un montant de 3,15 milliards de dollars à Anheuser-Busch InBev, leader mondial belgo-brésilien des bières et principal embouteilleur mondial de PepsiCo. Le Bénin prévoit de dépenser jusqu'à 15 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour des projets agricoles, touristiques et d'infrastructures. Selon son ministre des Finances, le pays boostera ses fonds en augmentant les recettes fiscales et les emprunts. Sur les marchés locaux et régionaux, le gouvernement financera environ 40% de son programme de développement, tandis que le secteur privé financera le reste. Enfin, la Libye a rouvert deux de ses plus grands gisements de pétrole et a commencé à pomper son premier chargement en 2 ans à partir de son plus grand terminal d'exportation, alors que le pays déchiré par la guerre poursuit son projet de presque doubler sa production en 2017.
Le sport tout de suite avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
On commence avec la Coupe du Roi de football et c'est en Espagne.
La soirée a été tranquille pour l'Atlético Madrid, facile vainqueur 4-1 après le 6-0 à l'aller face à la modeste équipe de 3e division de Guijuelo. Fernando Torres a inscrit le 4e but des Colchoneros avant la mi-temps. On parle de la surprise de la soirée puisque Malaga a été battu par Cordoue lors de ses 16e de finale retour. Malaga qui s'incline 4-3. C'est la première équipe de l'élite à être éliminée. Ce mercredi, place au Barça, double tenant de la Coupe du Roi. Le Barça qui a concédé le nul au match aller, 1-2 contre Hercules, modeste équipe de 3e division. A noter que le Real Madrid a pour sa part déjà décroché fin novembre sa qualification pour les 8e de finale de cette Coupe du Roi grâce à 2 larges victoires contre Cultura Leonesa. Le Real Madrid qui, vous le savez, a remporté le titre de champion du monde des clubs au Japon.
Il y a aussi la Copa Libertadores.
L'équipe paraguayenne du Sportivo Limpeno a remporté la nuit dernière la Copa Libertadores féminine en battant en finale le club vénézuélien de l'Estudiantes de Garrico de 2-1.
Le budget des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo est revu à la baisse.
Oui, le budget des JO 2020 passe désormais sous la barre des 17 milliards de dollars. C'est ce qu'indique le comité organisateur, mis sous pression depuis plusieurs semaines par le CIO pour alléger la facture. Le coût des JO de Tokyo est en effet depuis plusieurs semaines au centre des préoccupations puisque certains experts estiment que la facture totale avoisinera les 27 milliards de dollars. Ce serait 4 fois plus que le montant initial estimé.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les 2 leaders de conférence se sont imposés hier. Plutôt facile pour Golden State qui a surclassé Utah 104-74. Les Cavaliers de Cleveland ont dû cravacher pour aller battre les Bucks à Milwaukee après prolongation 114-108. San Antonio a obtenu une victoire précieuse sur le parquet de Houston 102-100. Les Clippers de Los Angeles ont quant à eux dominé Denver 119-102 à Los Angeles. Et puis les Raptors de Toronto ont maîtrisé les Nets de Brooklyn 116-104. Enfin, Boston s'est fait peur avant de battre sur le fil les Grizzlies 112-109 après prolongation.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie étudiait chez John Lydon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, John, où les résultats des législatives du 18 décembre dernier ont conforté le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti a remporté la majorité des 254 sièges avec 167 élus et c'était une victoire attendue. La surprise, en revanche, est venue des frondeurs des grands partis. Ils se sont présentés en indépendants et ont raflé au moins 50 sièges. Olivier Akoto est l'un d'eux. À Daoukro, au centre-est du pays, il a largement battu l'ancien ministre Niamien Ngoran, pourtant donné comme l'un des favoris au poste de vice-président de la République, Tatiana Mosso.
J'étais très sûr de moi parce qu'il y a toujours un travail de terrain et moi j'ai mené qu'à pas de possibilité puisque je suis au quotidien à la population, je partage mes joies et donc fort de ça, la population a confiance en moi. Donc ça a été un argument fort pour moi.
On a vu que plusieurs indépendants ont fait leur percée au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez prévu d'organiser une coalition, par exemple, même si vous n'êtes pas du même bord politique?
Moi, je n'ai pas encore eu l'approche d'être indépendant, mais je peux vous dire que chef de Dieu, j'ai encore aussi un enfant dans le courant de Dieu. Et donc, depuis ma candidature, j'ai dit que si je gagnais, je l'ai dit à ma candidature, ma victoire au président du courant de Dieu. Donc, pour le moment, je m'attire à ça.
Vous êtes un candidat hors des grands partis traditionnels ivoiriens. Pourquoi vous êtes remis en indépendant? Qu'est-ce que vous vouliez apporter de différent?
Je suis ici d'un parti politique pour le PNCRDA. Et donc, les gens du PNCRDA ont tendance à penser que le parti les oublie. Et moi, je voulais démontrer que ça compte toujours avec la jeunesse du PNCRDA. Et en plus, nos militants sont un peu coupés un peu de réalité avec le sommet. Et donc, moi, c'est un signal fort pour dire qu'il faut désormais compter avec la base. Il faut compter avec la base parce que c'est la base qui fait véritablement le parti. Et donc, moi, ma créature avait pour mission de rapprocher véritablement de la base, l'aspiration profonde de la population.
Une fois que vous allez siéger, quelles vont être vos priorités?
Être à l'écoute, proche de mes militants, de la base, de la population, être à leur écoute et puis être leur porte-voix. Leur porte-voix, il faut dire que notre région a une particularité, c'est la région du président du courant de Dieu, mais il veut véritablement être l'interface entre cette population et le président du courant de Dieu, et puis défendre l'intérêt de la population. Quant au projet de loi, il doit régir un peu la population au niveau d'Aoukro.
Olivier Akoto, vainqueur des élections législatives à Daoukro, au centre-est de la Côte d'Ivoire.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte l'ambiance confuse et explosive en RDC alors que le régime réprime la contestation réclamant le départ du président Kabila dont la fin du mandat officiel est dépassée. Quelle est réellement la situation sur les manifestations meurtrières à Kinshasa, Lumumbashi et ailleurs dans le pays? Que fait la MONUSCO? Où en est la médiation menée par les évêques? Et enfin, quid de l'opposition toujours divisée sur la suite de la transition politique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Dans le sud-ouest du Cameroun, 244 fermiers ont porté plainte pour violation de propriété contre la Sustainable Oil Cameroun qui veut planter 20 000 hectares de palmiers à huile. Une pétition signée par 180 personnes contre le renouvellement du contrat de la compagnie a été remise aujourd'hui au président Paul Biya. Nathalie Barge a joint à Yaoundé Samuel Ngifo, le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Le Cameroun, comme les autres pays forestiers d'Afrique, fait face à plusieurs menaces. Aujourd'hui, c'est le palmier à huile qui a le vent en poupe au Cameroun et dans les autres pays de la sous-région. Prouve que le palmier à huile pousse exactement à l'endroit où pousse la forêt. C'est les mêmes écosystèmes, c'est les mêmes zones qui sont des zones propices à la culture du palmier. Donc pour y arriver, il y a une déforestation de plus en plus forte. Et on peut penser que dans les années à venir, avec l'augmentation de la demande d'huile de palme, il y aura une demande de plus en plus forte pour la terre, les terres forestières. C'est une menace. Il faut réfléchir de manière très urgente pour voir comment canaliser ce développement-là et s'assurer que demain, on n'aura pas remplacé la forêt par des palmiers à huile.
Est-ce que le gouvernement arrive à mettre finalement des garde-fous à cette expansion de ces multinationales ou est-ce que c'est vraiment une affaire de business et on peut difficilement y faire quelque chose ?
Il faut dire que la politique gouvernementale est une politique d'incitation à l'investissement. Donc, on a très bon œil à arriver des investisseurs dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'agro-industrie. Le développement dans l'agro-industrie se superpose à l'exploitation forestière, à la construction des grandes infrastructures, au développement du secteur minier. Et donc, tous ces développements qui surviennent au même moment et qui ont pour espace la zone forestière constituent une menace extrêmement forte qui n'a pas été perçue. Donc aujourd'hui, il faut y aller rapidement et de la manière la plus efficace qui soit pour s'assurer que la forêt ne va pas être sacrifiée sur l'autel du développement.
Est-ce que l'accord avec la SOCFIN, pour vous, est un accord positif, prometteur, en matière de consentement des populations, par exemple, et de la politique zéro déforestation ?
Il est important que les grandes compagnies adoptent une politique zéro déforestation. Il y a des zones forestières qui ont déjà été dégradées et qui, justement, à cause de cela, en raison de cela, peuvent être propices à la culture du palmier à huile sans menacer le reste du pouvoir forestier. Donc la réflexion sur l'aménagement du territoire devrait aller dans le sens de l'identification de ces zones-là, de l'identification des droits des communautés à ces endroits-là, et on devrait éviter pour les compagnies d'avoir une attitude également autoritaire dans la manière dont elles prennent possession des lieux et dont elles exploitent les lieux. Donc la clé, encore une fois, sur ces questions devrait assurer que les communautés sont associées de manière adéquate.
La pétition a bien été signée par 180 000 personnes. Samuel Ngifo, qu'on écoutait, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, est joint à Yaoundé, au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
2016 touche à sa fin, l'occasion de faire des bilans. Le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes, relève une baisse dans le nombre de travailleurs de la presse tués en 2016. Mais ça n'est pas tout. On revient sur le rapport du CPJ avec Gaby Dorsil.
Au premier trimestre de cette année, la Voix de l'Amérique a perdu un des siens. Le journaliste indépendant Al-Migdad Mojali, qui a couvert le Yémen pendant 3 mois pour la VOA, notamment l'impact humanitaire de la guerre, a été tué lors d'un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Mojali est l'un des 48 journalistes morts en 2016, soit assassinés, pris dans un feu croisé ou tombés sur le front ou lors d'une mission dangereuse, selon les nouvelles données publiées par le Comité pour la protection des journalistes. Si globalement le nombre est en baisse par rapport aux années précédentes, Courtney Redge, membre de la direction du CPJ, a dit à la Voix de l'Amérique via Skype que les raisons ne sont pas tout à fait claires. Une chose que vous pourriez extrapoler, c'est que dans certains conflits, il est devenu si incroyablement dangereux d'être journaliste qu'il y a tout simplement moins de personnes faisant ce métier, a-t-il fait remarquer. C'est surtout le cas dans les zones ravagées par la guerre à travers le Moyen-Orient. Plus de la moitié des personnes tuées étaient en mission en Syrie, au Yémen ou en Irak. Rien qu'en Syrie, 14 journalistes sont tombés dans l'exercice de leur profession. Ce pays détient le record pour la 5e année consécutive. Mais même dans les endroits où les journalistes sont moins susceptibles d'être pris pour cible, diverses formes de censure ou d'intimidation sont répandues, comme par exemple en Turquie, où l'on a recensé près d'un tiers des journalistes emprisonnés dans le monde, selon le CPJ. De nouveau, Courtney Raj.
We see that conflict zones continue to be very deadly and dangerous for journalists.
Nous constatons que les zones de conflit continuent d'être très dangereuses pour les journalistes. Nous voyons également se produire une répression qui se manifeste par la censure de la presse et le contrôle du discours sur les médias sociaux. Steve Raymer est un professeur de journalisme. Dans un entretien via Skype, il explique comment les gouvernements ont trouvé des moyens moins difficiles pour censurer les journalistes. Un exemple, la Russie. Il n'y a pas eu de meurtre de journaliste en Russie depuis 2013, selon ce rapport, souligne M. Raymer. Mais la Russie a adopté une législation beaucoup plus dure pour faire taire les journalistes et les critiques, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir au meurtre. Le CPJ a constaté qu'environ 9 sur 10 des journalistes tués étaient locaux et non étrangers, une statistique conforme aux tendances historiques. Des groupes politiques, parmi lesquels des organisations militantes islamistes, ont été trouvés responsables de plus de la moitié de tous les meurtres en 2016.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, troisième épisode de notre série VO Afrique consacrée à l'épidémie. Elle s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016. Il s'agit de la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, quasi exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Le monde est-il prêt à faire face à la prochaine épidémie? VO Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte contre Ebola. Zakaria Camara s'est rendu à Kizidougou, en Guinée, pour observer le niveau de survie des patients guéris d'Ebola.
Tous les jours, Madame Thérèse Soropogui communique avec les guéris d'Ebola de Kishidougou.
Si par exemple c'est un guéri qui est malade, on met une équipe d'investigation sur le terrain. On oriente ce malade vers la structure la plus proche. Ça peut être un poste de santé ou un centre de santé. D'où on fait une prise en charge. Et si au niveau de ce poste, il ne peut pas faire la prise en charge, on oriente immédiatement au niveau de l'hôpital.
27 au total, ces anciens malades surveillent au quotidien leur communauté. Objectif, remonter toute information importante à la direction préfectorale de la santé.
Ils nous appellent pour nous dire s'il y a des événements. Ces événements peuvent être soit s'il y a un décès au niveau de leur communauté, s'il y a même des guéris d'Ebola qui tombent malades, s'il y en a, ils nous informent. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est venu d'une zone affectée ou bien un étranger est venu au niveau de la communauté, il nous informe.
Si l'information concerne un guéri d'Ebola, il est ensuite conduit vers le centre le plus proche pour une prise en charge gratuite. Depuis sa sortie d'un centre de traitement, Farah, élève de secondaire, assure la surveillance dans son quartier.
On nous a octroyé des crédits et l'argent pour les appeler. S'il y a des cas de maladie, on les informe. S'il y a des cas de décès, on les informe. Et si on reçoit aussi des étrangers, on les informe.
Ebola avait mis à nu la faiblesse du système sanitaire guinéen. La maladie a fait plus de 2500 morts. Pour éviter toute surprise, des centres de traitement épidémiologiques sont installés dans tout le pays. Du retour de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Lionel Gaïma était à la mise en onde et à la console, Thomas Blondet, présentation Anastasie Tudiesh et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook, partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.